Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.
Merci.
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 Écoutez, vos oreilles vous parlent. Elles sont prêtes pour une petite révolution radiophonique, le DAB+. Le DAB+, est la nouvelle technologie de diffusion de la radio en qualité numérique sans abonnement. Avec un poste de radio équipé DAB+, où que vous soyez, chez vous, en voiture, profitez d'une expérience radio unique et d'une qualité d'écoute optimale. Découvrez le calendrier de déploiement sur ensemblepourledab+.fr.
Ça tourne, silence.
Salut, c'est Frédéric Coster. On se retrouve à 17h sur Bretagne 5 pour Toiles et Sillons, l'émission qui regarde le cinéma avec les oreilles. Venez passer une heure avec la musique de vos écrans, petits ou grands. Musique de film, chansons de film, interviews, bandes annonces, c'est Toiles et Sillons sur Bretagne 5.
Vive le cinéma!
Et après tout ça, moi je vous dis que vous écoutez Bretagne 5 et qu'il est 8h15.
Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce mercredi est Stéphane de Salier-Dupin. Il est conseiller régional de Bretagne dans le groupe Ilson Haut, la Bretagne, droite, centre et régionaliste. Il est également conseiller municipal de Lamballe-Armor et j'ajouterai assistant parlementaire au Parlement européen à Strasbourg. Voilà un homme complet dans ses fonctions. Bonjour Stéphane de Salier-Dupin.
Bonjour à toute l'équipe.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler donc de politique, ça ne vous aura pas échappé. Et on va parler de budget, autant évacuer tout de suite les choses qui fâchent. Ce matin, voilà le budget qui va arriver à l'Assemblée nationale, qui va être discuté en commission, puis devant les parlementaires. Et déjà, ça promet une belle bagarre.
Le budget, c'est l'indépendance et la liberté de la nation. Hein. On peut sortir des tableaux Excel 30 secondes. Et puis ramener les choses à l'importance, c'est lorsqu'on n'est pas libre budgétairement, on n'est pas libre tout court. Mmh. Les familles le savent bien, mais ça vaut la même, c'est la même chose pour l'équilibre du budget de la nation. Et donc, quand on parle de budget, on ne parle pas uniquement de choses catégorielles, on parle de vraiment de souveraineté et de liberté, de l'indépendance de la nation, comme dirait le général de Gaulle.
Voilà, je me disais bien qu'on l'aurait convoqué à un moment ou à un autre. Justement, l'indépendance de la nation, c'est aussi faire en sorte que le pays ne soit pas trop endetté. Et là, force est de constater que ce n'est pas le cas.
Non, mais on a découvert une situation absolument dramatique. À lire dans le monde d'hier, enfin, daté du jour... le montant de la dette américaine qui fait frémir les deux candidats, à savoir 1830 milliards de dollars. Et là, ça leur fait peur. On est à 3300 milliards d'euros.
Comparativement, ça fait peur.
Voilà, la démonstration est faite. La démonstration est faite. Je veux dire, on ne peut pas durer une éternité dans ce schéma-là, et ce d'autant plus qu'on en a, il faut se le dire, très peu de marge de manœuvre en matière fiscale. On fait partie, on est le pays d'Europe où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés. De mémoire, on doit être à 43% en prélèvement du PIB. Donc il y a un moment où il faut savoir redresser la barre. Et une nouvelle fois, c'est pas pour le plaisir de se faire mal, c'est parce que derrière, lorsqu'on veut pouvoir emprunter sur les marchés, derrière, lorsqu'on veut pouvoir poser des choses sur une table de négociation internationale et faire valoir les intérêts de la France, eh bien on nous rappelle qu'il faut commencer par être un peu propre chez soi, avant d'avoir des exigences. Dans le contexte international qui est le nôtre, avoir des exigences, ça a de l'importance. Donc vraiment, la question de l'équilibre budgétaire, la question de la dette, c'est une question de liberté et de souveraineté.
Le temps de l'analyse viendra, le temps de la compréhension aussi. On entend déjà les demandes de différents groupes de parlementaires et de différents groupes politiques à l'Assemblée nationale pour auditionner l'ex-ministre des Finances, Bruno Le Maire. Est-ce que selon vous, le dérapage était connu? Est-ce qu'on l'a vu venir et qu'on a un petit peu mis ça de côté?
Ah, le dérapage était connu. On savait très bien que, grosso modo, hein, je vous dis ça de mémoire, 2007, on doit être à 800 milliards d'euros, 2017, on est à 2000 à la louche, hein, milliards d'euros et aujourd'hui on est à 3300. Donc il y a un moment où la progression on la connaît et l'idée même de quoi qu'il en coûte est absurde. Mmh. Puisqu'il y a un moment où on paye.
Et même aujourd'hui on paye l'ardoise si j'ose dire.
Mais inévitablement. Et en plus on est dans un contexte qui est très singulier, c'est-à-dire qu'autrefois, je pense singulièrement aux années 82-83, on avait l'arme de la monnaie, c'est-à-dire qu'on avait le franc on avait cette faculté à dévaluer. Donc on dévaluait la monnaie, on l'a fait trois fois dans les années que j'évoque, et donc on appauvrissait tout le monde de façon à peu près égale et non douloureuse ou moins douloureuse. Aujourd'hui, nous n'avons plus de la monnaie. Alors quand je dis ça, n'y voyez pas une quelconque nostalgie, absolument pas. Mais ça veut dire que la réalité de l'économie, on va la faire. Mmh. Concrètement. Ça s'est vu dans l'histoire, simplement il y a un moment où on se heurte à la réalité. L'équipe précédente, depuis 2017, avait fait le choix légitime de ne pas augmenter l'impôt, voire de le faire baisser pour une vraie politique de l'offre. Seulement ça ne pouvait se faire que par une baisse de la dépense publique. Or, manifestement, ça n'a pas été contrôlé, quoi. Donc ce budget, qui n'est pas un budget agréable, hein, mais marque la fin de 7 ans de politique du président de la République, qui n'a pas été sérieuse budgétairement. Le Mozart de la finance nous a laissé dans la situation dans laquelle on est.
On est donc dans une situation très difficile. On entend les Français qui ont alerté lors des scrutins, que ce soit pendant les européennes ou lors des législatives. Le Rassemblement national a presque fait carton plein, si j'ose le dire ainsi. 11 millions d'électeurs. Il y a eu un sérieux coup de semonce, une alerte. Et là, on a l'impression quand même que...
L'alerte du Rassemblement national, ce n'est pas une alerte budgétaire.
Hein, non.
Ils ont ça de commun avec une partie de l'extrême gauche, c'est cette qualité à pouvoir dépenser un argent qu'on n'a pas. Hein.
Alors, en tout cas, les Français ont décidé de renverser la table, de dire, voilà, on veut un changement. Aujourd'hui, on le sait, les Français...
Je pense que les Français ont dit, on veut plus de ça. Y a une nuance.
On veut plus de Macron. C'était ça, peut-être, aussi le message.
Vous voyez la nuance. Hein. Ils n'ont pas voté pour un projet, ils ont voté contre une majorité sortante.
On a l'impression d'ailleurs depuis plusieurs années qu'on vote beaucoup contre et pas pour en France.
Ce qui est désespérant.
Ce qui est désespérant.
Pour les citoyens.
Nonobstant, le budget va amener une forme de rigueur, d'austérité. Les Français demandent plus de services publics, particulièrement dans les zones rurales, demandent également à mieux vivre finalement, pouvoir s'acheter une voiture pour se déplacer, pouvoir payer ses factures d'électricité. Est-ce qu'on risque d'arriver à un moment ou à un autre à une grande tension sociale si on rentre dans une logique de rigueur?
Non mais, alors d'abord, on ne parle pas de rigueur. Alors c'est la guerre sémantique, la guerre des mots, mais là n'est pas le sujet.
Voilà, je l'ai pris
on
avec
se redonne
prudence.
De la liberté. La liberté, ça peut nécessiter des efforts. Les Français, ils ont parfaitement compris quand on est en voie de sous-développement sur un certain nombre de sujets et qu'on rafistole. Vous savez, on dit parfois que dans la marine, c'est la couche de peinture qui fait tenir la coque. Mais là, en l'occurrence, on rafistole depuis des années et des années. Il y a un moment où il faut prendre le taureau par les cornes, mais également ne pas se mentir sur un certain nombre de sujets. Hier, à l'Assemblée nationale, on a eu le débat sur l'aide médicale d'État. 1,3 milliard. Avec une augmentation prévue au budget de 100 millions. Les chiffres donnent le vertige par eux-mêmes. Mmh. Alors, qu'on soit clair, il ne s'agit pas d'être inhumain d'interdire l'accès aux soins. Il s'agit de revenir à une situation antérieure, l'aide médicale d'État, de mémoire, c'était François Hollande, qui était l'aide médicale d'urgence. Lorsqu'il y a urgence, effectivement, on ne va pas laisser quelqu'un, dans la situation dans laquelle il est. Mais en revanche, l'absolue gratuité des soins pour des populations qui, dans des conditions illégales, ont rejoint le territoire national et qui accèdent gratuitement à des soins que les Français ne peuvent pas avoir, là, il y a quand même un petit sujet. Il y a un sujet lorsque on constate que ça peut constituer une des motivations de la migration. Vous voyez, donc il y a un moment où il faut aussi regarder les grandes masses, se poser des questions. Il s'agit une nouvelle fois, enfin, c'est terrible parce qu'on doit se prévaloir. Mais je suis humaniste quand même, vous savez. Ce qui est la réalité profondément. Mais 1 milliard 300 millions d'euros. Aujourd'hui, sur les mineurs sans papier dans les départements, l'augmentation du coût à la charge des départements est devenue absolument exponentielle. Mais qu'ils soient à la charge du département ou qu'ils soient à la charge de l'État, c'est pareil, c'est la même poche, c'est la nôtre. Donc il y a un moment où, sur des grandes politiques de ce type, il faut savoir se poser les bonnes questions.
Il faut avoir une vision à long terme en termes d'immigration, vision européenne peut-être, on va pouvoir l'évoquer, ou de sécurité, on en parle beaucoup, on lit souvent d'ailleurs les deux sujets, plus généralement en termes de politique sociale, il faut avoir une vision, on n'a pas cette vision aujourd'hui.
On a fait de la sédimentation, c'est-à-dire qu'on a rajouté des couches sur des couches sur des couches. Et c'est toute la difficulté budgétaire aujourd'hui. Hein. On a une difficulté, on crée un chèque. On va créer un chèque pour la voiture électrique. On va créer un chèque carburant. On va créer un chèque... Ce que veulent les gens, c'est quoi? C'est vivre de leurs revenus, de leur travail, le plus librement possible, et permettre à leurs enfants de vivre et d'étudier et de grandir dans de bonnes conditions. Et ils ne demandent pas l'aumône d'un chèque. Le vrai sujet... je crois que les Français sont conscients des prélèvements obligatoires dont ils font l'objet de façon très large. Hein. Je vais des cotisations à la TVA en passant par l'impôt sur le revenu. Ils sont tout à fait conscients de ça. Mais ils ont le sentiment légitime de ne pas en avoir pour leur argent. Ils ne sont pas hostiles au fait de payer l'impôt. Seulement, ils voudraient que le service derrière soit là. Or, le service, et là je ne mets pas en cause les agents des services publics quels qu'ils soient, il n'est plus là. Ils en sont conscients. Ils sont conscients qu'on est en voie de sous-développement sur un certain nombre de sujets, sur l'hôpital, sur l'éducation, sur toute une série de sujets.
Il y a une forte demande
sur l'hôpital. Et ils ont le sentiment de payer toujours plus.
Il y a une forte demande sur l'hôpital aujourd'hui. On le voit y compris dans les campagnes et on le voit dans les luttes actuelles, que ce soit à Carré ou à
Gagnon. On a un pays qui est en cours de vieillissement. Là aussi, c'est un autre sujet qui fait partie, me semble-t-il, d'une forme de sous-développement qui est en voie de vieillissement parce qu'on ne fait plus d'enfants. Alors là, quand je dis ça, on va me dire oui, c'est une vision simpliste. Non, je veux dire, quand il n'y a plus d'enfants dans un pays, quand il n'y a plus de jeunesse, il n'y a pas d'avenir. Hein.
Il y a peut-être une peur aussi des Françaises à faire des enfants quand on voit l'avenir qu'on leur promet.
Je réponds sur l'hôpital. Et j'y viens après votre question. Sur l'hôpital, on a un vieillissement, on a un besoin de soins qui est là, et on a une structure hospitalière qui aujourd'hui est complètement engorgée. Moi, je salue vraiment tous les agents, parce que je suis convaincu qu'ils font le maximum dans des conditions de travail qui sont objectivement limites dans pas mal d'endroits. Seulement, comparons la gestion administrative de l'hôpital en Allemagne, on a 15% des agents qui sont des agents administratifs, à la situation administrative en France, où 25% des agents font un travail administratif. Donc la question, c'est que moi je ne veux pas qu'on touche à la première ligne, parce que c'est celle qui tient, c'est celle qui avance, c'est celle qui conquiert, mais qu'on se pose la question du back-office, c'est ça qu'on dit en bon français, où là on a multiplié les normes, multiplié les complexités, multiplier les études, voilà. Et là-dessus, ça vaut pour les collectivités, on en viendra peut-être.
On va en parler des collectivités. Alors, justement, ce vieillissement...
Sur la natalité, il y a un moment où un pays qui a le moral, qui a envie de crocher dans l'avenir, il a des gamins. Voilà. Et là, on a une forme de dépression collective, encouragée par un certain nombre de mouvements de pensée, wokistes, un peu écologistes politiques, qui dit aux jeunes, c'est criminel ça, il n'y a pas d'avenir. Voilà, c'est vraiment criminel. Hein.
Voilà peut-être la clé aussi de divers problèmes, la possible hausse de la natalité si un pays va bien.
Ah, moi je pense que c'est une conséquence du fait qu'on a envie de crocher dans l'avenir. Et là aujourd'hui, Stéphane Hamon, vous le savez, on va tous mourir.
Je crois que l'issue est assez connue.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans le ridicule absolu. Il y a un moment où il faut pouvoir dire à nos enfants qu'ils ont de belles choses à faire, y compris d'ailleurs dans une forme de sobriété écologique, ça ne me choque pas, hein, mais qu'il y a de belles choses à faire.
On a oublié finalement, là on s'écarte un tout petit peu, mais on rentre presque dans la philosophie, on a oublié justement ce qui est philosophique, c'est-à-dire avoir les moyens de vivre et avoir un but. Aujourd'hui, il n'y a plus de but. La politique a oublié les buts aussi, ou a perverti les objectifs, comme on dit.
Est-ce que c'est à la politique de tout faire dans ce domaine ?
Voilà, c'est la question. Hein.
Moi, je ne suis pas complètement convaincu. Par contre, ce que je sais, c'est que lorsque... en 40 ou en 58, alors je reviens sur ma marotte, hein, vous me pardonnez, hein, mais en 40 ou en 58, on dit qu'il y a un espoir, en l'occurrence Général de Gaulle, il y a une façon de donner un cap également, et la plus belle des espérances, disait Georges Bernanos, c'est d'espérer au-delà des désespoirs ou des espoirs déçus. Donc voilà, il y a un moment où il faut faire de cette vertu un cap.
Alors, le cap, aujourd'hui, on va revenir un peu à la politique et au budget, Stéphane de Saillier-Dupin.
Mais ça participe de ça, vous l'avez compris. Hein.
Voilà, tout à fait. Alors, je voulais vous entendre sur le fait qu'on arrive sur une bataille politique, là, pour le coup, à l'Assemblée nationale, avec sans doute le possible dépôt d'une ou plusieurs motions de censure qui pourraient faire tomber le gouvernement. En tout cas, c'est une des options. Est-ce que ce serait dommageable, là, aujourd'hui, que le gouvernement Barnier tombe ?
Je ne suis pas certain que ce soit dans l'intérêt, y compris des oppositions. Bon, ça c'est une chose. Parce qu'il y a un moment où il faut faire le sale boulot. Ils en sont très conscients. On est dans un cinéma. Mmh. Ils sont très conscients qu'il y a un moment où il faut faire le sale boulot. Alors que le Parlement exerce en responsabilité, son droit d'amendement, le Premier ministre lui-même l'a dit, hein, il était ouvert à toutes sortes de propositions au regard du fait qu'il fallait faire ces 60 milliards d'économies si on voulait survivre, budgétairement, survivre. C'est même pas des mesures de nouveau cap, c'est des mesures de ne pas plonger.
On n'a pas plongé sur les agences de notation, on pense à Fitch, qui n'a pas dégradé... Oui,
qui nous annonce du négatif pour la prochaine fois. Donc voilà. Tout ça sont des mots aimables. Non, il faut pas se raccrocher à... On a fait ça pendant des années. Ah oui, mais on n'est pas complètement dégradé, on sait que c'est sur la tangente, mais... Non mais stop. On a les chiffres. 3 300 milliards d'euros de dette. 55 milliards d'euros d'intérêt de la dette, le premier poste du budget de l'État. Est-ce que vous imaginez un seul instant que les ménages, les foyers... Stop.
Avec aussi une perspective pas forcément encourageante, on a vu le cas de la Grèce il y a quelques années, il y a aussi, les observateurs le disent en tout cas, des possibilités qu'un jour ou l'autre, le Parlement européen, en tout cas l'Europe, dans son ensemble, dise stop, maintenant
ça suffit. En l'occurrence, c'est la Commission.
Hein, la Commission européenne dise stop, voilà, maintenant ça suffit.
On est lié à une monnaie que l'on partage. Cette monnaie est liée à la santé économique des pays de l'Union. On a fait le choix de la partager, cette monnaie. Et les Français, ils sont assez attachés, finalement. Ils sont attachés à deux choses en Europe, à savoir leur pouvoir d'achat, c'est aussi une garantie liée à la monnaie, et à la monnaie. Donc, leur pouvoir d'achat et la capacité à circuler librement, pardonnez-moi. Mais à partir du moment où on a une monnaie commune, il y a un moment où il faut s'astreindre à des règles communes. Si on n'avait pas eu l'euro... une nouvelle fois, hein, je ne suis pas ni pour ni contre, bien au contraire, je prends les faits tels qu'ils sont. Si nous n'avions pas eu l'euro, on aurait dévalué depuis quand ? Probablement depuis le début des années 2000. L'euro nous a protégés de la dévaluation. L'euro nous a également entretenus dans l'illusion de croire qu'on pouvait continuer à emprunter gentiment sans que c'est de conséquence, puisqu'on ne dévaluait pas. Donc il y avait un petit côté, allez, je regarde pas, on avance. Et puis il y a un deuxième élément. Je vous rappelle qu'on a emprunté un taux négatif au début des années 2020, c'est un pouce au crime. Mm-hmm. Il faut le dire à nos auditeurs, un taux négatif, c'est quoi? C'est que vous ne payez, non seulement vous ne payez pas d'intérêt, mais vous êtes payé pour emprunter. Enfin, je veux dire, y a une limite à l'exercice.
Mm-hmm. C'était finalement un piège, ces taux négatifs?
C'est une réalité. Le piège, il est dans la tête des gens qui empruntent. Il y a une réalité du marché qui le proposait. Très bien. Mais on n'est pas obligé d'appuyer sur le bouton.
Aujourd'hui, on a des alertes qui arrivent des collectivités territoriales. Je vous sais attaché au territoire, Stéphane de Salier-Dupin. On entend les présidents de conseils départementaux, ça a été le cas pour les Côtes d'Armor ou encore pour la Loire-Atlantique, ou les Lévis-Vilaine. On entend des maires même de certaines communes, de certaines villes qui s'alarment au niveau budgétaire. On a entendu Madame la maire de Rennes qui s'est émue de coupes budgétaires.
Je fais abstraction des intérêts politiques et partisans.
Voilà, je parle bien en règle générale des élus qui sont sur le terrain, qui...
Vous avez des élus qui sont légitimement sur le terrain, qui font des choses, qui peuvent avoir un intérêt partisan à crier au feu. D'accord?
Voilà, alors...
si on fait abstraction de cela, comment ne pas imaginer que les collectivités ne participent pas du redressement national? D'accord? Alors après, oui, il faut se poser la question, où, comment, quoi? La région s'est estimée un peu plus de 56 millions d'euros d'économies à faire. 56 millions d'euros ramenés à 2,2 milliards de budget. C'est pas évident à trouver, c'est pas facile. Seulement, je n'imagine pas que les collectivités ne participent pas à cet effort. Alors après, il ne faut pas se tromper. L'État, qui lui peut faire un déficit tant et tant, regarde les collectivités, qui elles n'ont pas le droit à voter un budget en déséquilibre, en se disant il y a peut-être quelque chose à gratter. Moi, je pense que tout cela, un, appelle de vraies mesures d'économie, mais où est-ce qu'on va les trouver? Vous avez des collectivités qui ont... embauchés allègrement dans ce que je l'appelle back-office tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont en première ligne auprès de l'usager, c'est des gens qui vont gérer les études, les dossiers, les projets. Bon, très bien. Deuxièmement, le législateur a multiplié les contraintes législatives, vous savez, rien qu'en urbanisme, je connais une communauté d'agglomération en Bretagne qui doit refaire, alors là, vos auditeurs me pardonneront, leur schéma de cohérence territoriale air, climat, énergie. Je l'ai dit, donc le SCOT AEC, c'est donc ce qui va, à l'échelle d'un territoire un peu plus large, permettre aux gens de savoir si à terme ils peuvent construire ou pas. Je vous le fais rapide. Sur une communauté d'agglomération, les études de ce SCOT AEC, vous en avez pour 900 000 euros. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a multiplié les contraintes. On a multiplié les schémas, je suis bien placé à la région pour le savoir. On a créé des SCOT, des AOP, des plans climat, air, énergie, des SRADET, je crois que c'est l'acronyme le plus moche. Enfin voilà, et à chaque fois vous payez du cabinet d'études. Et à chaque fois vous avez quelqu'un en interne, si possible deux personnes minimum, qui vont suivre le dossier, mais comme ils sont deux, il faut un coordinateur ou deux. D'accord? Et donc là, on va embaucher le coordinateur. Bon, je caricature, mais je suis pas loin de la réalité. Donc, l'inflation législative, elle a entraîné beaucoup de choses dans les contraintes qui portent sur les collectivités. Dans tous les cas, tout cela appelle une vraie clarification des compétences pour les collectivités. Alors, c'est des choses qu'on dit depuis des années, des années, des années. Mais est-ce qu'il est normal que sur un projet terrain de sport, on ait trois, quatre collectivités qui gèrent les mêmes dossiers? Pour chacun pouvoir participer à un moment ou à un autre à la coupure du ruban, non. Il y a un moment où il faut clarifier, et avec la clarification, il faut que l'État fasse enfin confiance en termes de subsidiarité, le mot est toujours compliqué, à savoir confiance à ceux qui sont au plus près du terrain pour réaliser les choses. Ce que je peux faire à l'échelle de ma famille, je l'ai fait à l'échelle de ma famille. Ce que je ne peux pas faire à l'échelle de ma famille, on va le faire à l'échelle d'une association ou de la commune. Ce que ne peut pas faire la commune toute seule, elle le fera avec l'interco. Ce que ne peut pas faire l'interco tout seul, ce sera fait à l'échelle du département. C'est ça la subsidiarité. C'est-à-dire que ce qui est fait au plus près est toujours mieux. Quand on ne peut pas, on s'organise et on fait avec les autres.
Il faut clarifier aussi le fameux millefeuille administratif. On prend un cas dans le domaine de l'éducation, les collèges qui sont gérés par exemple par les départements, les lycées par la région. Est-ce qu'il faut clarifier aussi?
Tout ça finalement, c'est l'éducation nationale. Mmh. Non, je rigole. La moitié. Oui, tout ça, faut le clarifier. Faut comment, dans un contexte où sur l'éducation, on va se heurter violemment et on revient à l'hiver démographique qui arrive au Interscom, et là il y aura des décisions cruelles à prendre. Non, moi je crois vraiment que les périodes de crise sont des périodes vertueuses pour mener les réformes, parce qu'avant, tant qu'il n'y a pas la contrainte, tant que on ne se risque pas vraiment à chuter, on se dit hop là, ça passe cette année. Vous savez, c'est le principe du saut en hauteur. J'ai pas touché l'élastique. c'est bon, on continue.
Il nous reste deux petites minutes, Stéphane de Sadier Dupin. Je voulais vous entendre aussi sur la situation. Vous l'avez dépeinte, elle est pas marrante, cette situation.
N'ayons pas peur des mots. L'adversité, c'est un vieux principe. Sans panique.
On imagine bien des remous sociaux dans les temps qui viennent. Il y a déjà beaucoup de fractures. On aurait pu ajouter à l'étage le contexte géopolitique, hein, qui n'est pas très simple non plus, et la France évolue là-dedans. Comment vous voyez l'avenir, vous, Stéphane de Sadier-Dupin? Est-ce que, quelque part, vous dites, voilà, finalement, la crise, ça nous permet de descendre de très bas, puis de donner un petit coup et de remonter, ou ça va être compliqué?
Moi, je suis engagé en politique. Je ne suis pas là pour commenter et me dire, mes pauvres enfants, j'aimerais pas vivre dans le monde qui va être le vôtre. Je suis là pour affronter les choses au fur et à mesure. C'est ça, ce qu'on demande aux élus, c'est d'affronter la réalité. Je n'ai pas de peur, la peur n'est jamais bonne conseillère à mettre là-dedans. On y va, on est déterminé, on s'organise et on fait le nécessaire, même ce qui doit être courageux, même ce qui peut à un moment ou à un autre appeler du sang et des larmes, comme disait le Premier ministre britannique Churchill. Non, on affronte les choses.
Les politiques, le personnel politique, depuis quelques années, en tout cas certains personnels politiques, n'ont pas assez affronté les réalités du terrain.
Ah oui. Non, c'est pas une question. N'ont pas affronté les réalités tout court.
Tout court.
Moi, on peut peut-être en terminer là-dessus, mais il y a un désastre budgétaire, c'est une réalité, mais il y a aussi un désastre en termes de politique étrangère de la France. Pardonnez-moi, mais 2017, il y a un excellent papier qui est sorti, je crois, au Figaro, de Nicolas Bevrez, qui dit clairement que on a perdu en Afrique subsaharienne, qu'on a perdu au Liban, qu'on a eu deux discours en Ukraine, et qu'aujourd'hui, la voix de la France n'est plus écoutée. Sans compter que, dans l'Union européenne, je vous rappelle que, cette espèce de grand cinéma pour la nomination des commissaires, on avait poussé la candidature de Thierry Breton, celui-ci n'y va pas. Dans l'instant, on met le ministre des Affaires étrangères démissionnaire. On est ridicule. Il y a un moment, il faut arrêter les sbrouffes, il faut bosser sur le fond. On a cassé le corps diplomatique. Ça échappe peut-être à nos éditeurs, mais on a cassé le corps diplomatique. Voilà, donc il y a un moment où, une nouvelle fois, il faut arrêter de faire de la com' et on affronte la réalité.
Affronter la réalité, le maître mot du moment, Stéphane de Sadier-Dupin, merci d'avoir été avec nous ce matin sur une radio associative qui, elle aussi, alors on va en dire un petit mot avec tous nos auditeurs, on en parle le matin, voilà, qui affronte aussi les tourments budgétaires, voilà, nos dotations vont être aussi un peu diminuées, alors on espère continuer à ouvrir le micro le plus longtemps possible à toutes les expressions politiques, quelle que soit leur sensibilité.
Tout le monde participera à un moment, je sais que ça plaît pas ce que je vais dire, hein, mais tout le monde participera à un moment ou à un autre. La question, c'est où est-ce qu'on met le curseur et vis-à-vis de qui? Et une nouvelle fois, il y a vraiment des politiques, j'en ai parlé, des politiques publiques qui aujourd'hui doivent être complètement réinterrogées sur ce que nous coûte un certain nombre de politiques d'accompagnement. Alors, quand je dis social, je vais passer pour un épouvantable personnage, mais je crois que là-dessus, il y a des vrais efforts à faire, il y a un vrai effort à faire contre la fraude. Voilà, mais on passera pas à côté, sinon nous serons une petite puissance, ou pas de puissance du tout, et on ne pourra pas faire valoir nos libertés.
Stéphane de Salier-Dupin, conseiller régional de Bretagne, groupe Huisson Haut, la Bretagne droite, centre et régionaliste, conseiller municipal de Lamballe-Armor, et également assistant parlementaire au Parlement européen à Strasbourg. Voilà, je voulais souligner votre nouvelle fonction. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à toute l'équipe.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.